Bonjour et bienvenue sur Bac FM. C'est dans le cadre des Nuits de la Lecture qui se dérouleront du 23 au 26 janvier 2025 que nous vous proposons l'émission Transmission. Ce sont les élèves de la classe seconde C du lycée Raoul Follereau qui vont vous réaliser des lectures expressives sur le thème des patrimoines.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Extrait du roman « La maison atlantique » de Philippe Besson, publié en 2014. Sur une des photos, elle porte un pull beige dont le col est en V. Un pantalon marron légèrement évasé. Des cheveux courts, à la garçonne. Elle fait face à l'objectif mais son visage est de profil, sa tête penchée vers un enfant dont elle remet en place le chapeau de cow-boy. L'enfant a 7 ou 8 ans. Il brandit un faux pistolet vers celui qui prend la photo. Il sourit de son mauvais tour, il a l'air taquin. Elle ne peut pas voir l'expression de l'enfant, dissimulée sous le rebord du chapeau, mais c'est comme si elle l'a deviné, comme si elle savait sa facétie. Elle témoigne de l'attendrissement, un épuisement joyeux. Derrière eux, une fenêtre. On aperçoit la mer. La photo a été prise l'été.
Extrait du roman « Du côté de chez Swann » de Marcel Proust, publié en 1913. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongea le temps de répit où maman n'était pas encore venue.
Un extrait du roman « Les recettes de la vie » de Jackie Durand, publié en 2019. J'ouvre le cahier de recettes à la page marquée par le signet. Je respire un grand coup pour couvrir les gargouillements de mon ventre. Je saute dans le vide, j'improvise. Surtout m'accrocher à une image. Ma mère léchant avec son doigt le saladier où tu as fait fondre le chocolat. J'en veux. Elle fait non de la tête en souriant, puis tartine mes lèvres avec son index. Toi tu dis « Stop maintenant, sinon il n'y aura plus assez pour la mousse ». Tu fais voltiger ton cul de poule en montant les blancs en neige. Ils sont si fermes que ton fouet tient debout. Je raconte ça à haute voix en mimant tes gestes. Tout comme je décris la crème épaisse que tu incorpores à la mousse. C'est ton petit secret à toi qui fait demander au client pourquoi ta mousse est si onctueuse. Tu souris mais ne dis rien, même aux plus fidèles.
Taille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau. Croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses.
L'école des beaux-arts, poème exprès du recueil « Paroles » de Jacques Prévert, publié en 1945. Dans une boîte de paille tressée, le père choisit une petite boule de papier et la jette dans la cuvette. Devant ses enfants intrigués, surgit alors, multicolore, la grande fleur japonaise, le nénuphar instantané, et les enfants se taisent. Émerveillés, jamais plus tard dans leur souvenir, cette fleur ne pourra se faner. Cette fleur subite, faite pour eux, à la minute, devant eux.
Oh, how I'd like you to recall. For you, this song was personal. It was your favorite,
I'm away. That it's by Cosma and Prevail.
Un extrait du roman L'invention du Gaucabré de Brian Selznick, publié en 2007. Je pourrais voir le tomate, papa, s'il te plaît. Quelques jours passèrent, et, un soir, le père introduisit Hugo en cachette dans le grenier du musée. La lumière filtrait à travers un voile de poussière. Il y avait là des maquettes de bateaux endommagés, des têtes de statues, de vieux panneaux, un tas de portes hors d'usage. Il y avait des bocaux de verre remplis de liquides étranges, des oiseaux empaillés et des chats figés en plein vol sur des présentoirs de bois. Enfin, son père souleva un drap taché qui avait été blanc. Et l'homme mécanique apparut. Hugo comprit aussitôt que jamais il n'oublierait sa première vision de l'automate. L'incroyable complexité de la machine lui donnait presque le vertige. Malgré son triste état, elle était d'une grande beauté.
Un extrait du roman Souviens-toi des abeilles de Zineb Mekwar, publié en 2024. Quand son grand-père raconte, il y a toujours un moment où sa voix change un peu, très légèrement mais assez pour qu'Enir le remarque. Elle devient plus grave, plus neutre aussi, et c'est comme si ce n'était plus Jedi qui parlait. Comme s'il n'était plus tout à fait seul à raconter son histoire. Comme si à travers lui, d'autres la racontaient. Que la lignée n'avait plus de commencement ni de fin. Quand ce moment arrive, le regard du grand-père aussi change. Les pupilles se dilatent et leur lumière s'en trouve renforcée. Alors, le petit Anir est comme envoûté. Sans s'en rendre compte, il commence à murmurer, à répéter lui aussi tout doucement et mot pour mot les phrases qui sortent de cette voix et de ce regard à présent sans âge.
Mon grand-père, c'est pas n'importe qui, solitaire. Mon grand-père, c'est moi qui vous le dis, légendaire. Des abeilles, des journées au soleil, un sourire sur les lèvres jusque dans mon sommeil.
Un extrait du roman L'été de la sorcière de Kao Nashiki, publié en 1994. Les êtres d'autrefois en savaient bien plus que nous. Certains d'entre eux, ceux qui avaient une plus grande maîtrise de ses savoirs et de ses connaissances sortaient du lot. Et les autres, comme les patients comptent sur leur médecin, comme les croyants se rassemblent autour d'un ascète, comme les disciples recherchent l'enseignement de leur maître, venaient leur demander conseil. Ce que possédaient ces humains un peu spéciaux s'est transmis de génération en génération, des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants. Pas seulement les connaissances, mais aussi d'autres compétences particulières.
Un extrait du roman d'Alva de Jim Harrison, publié en 1988. Tous les arbres ont été plantés par mon arrière-grand-père pour constituer des coupe-vents, des abris contre les violentes bourrasques des plaines. Et afin de fournir du combustible et du bois de construction dans une région où ces denrées étaient rares et coûteuses. Il y a des rangées irrégulières de pins et de ponderosa, beaucoup de caragans à feuilles caduques, de baies de buffle, d'oliviers russes, de cerisiers sauvages, d'amélanchiers, de pruniers sauvages, de pommiers épineux et de saules. Les cercles les plus proches du centre de la propriété sont constitués de grands frênes verts, d'ormes blancs, d'érables argentés, de noisetiers noirs, de mélèzes d'Europe, de cerisiers à grappes noires et de micocouliers.
Extrait du roman Betty de Tiffany McDaniel, publié en 2020. « Ce sont trois sœurs, m'avait dit papa. Dans différentes tribus indiennes, les trois sœurs représentaient les trois cultures les plus importantes. Le maïs, les haricots et les courges.
Les cultures poussent ensemble comme des sœurs. L'aînée est le maïs. Elle est la plus grande et c'est à elle que s'accrochent les tiges de ses sœurs plus jeunes. La seconde, c'est le haricot. Elle apporte azote et nourriture au sol, ce qui permet à ses sœurs de devenir fortes et résistantes. La plus jeune, c'est la courge. Elle est la protectrice de ses sœurs. Elle étend ses larges feuilles pour faire de l'ombre à la terre et empêche les mauvaises herbes de s'installer. Ce sont les tiges des courges qui unissent les trois sœurs par le lien le plus fort qui soit. C'est de cette manière que j'ai su que j'aurais trois filles, même après la mort de Wakanda.
Extrait du roman « Les recettes de la vie » de Jackie Durand, publié en 2019. Il est 19h, c'est le moment des crêpes. C'est moi qui prépare la pâte, sans recette évidemment. Tu te contentes de mesurer le lait, la farine et de faire fondre du beurre. Je prépare moi-même mon matériel, un saladier et un fouet plus petit que le sien. Je sais maintenant casser correctement les œufs dans la farine. Puis j'ajoute progressivement le mélange lait beurre. Et je fouette de toutes mes forces, comme si le sort du monde en dépendait. Tu m'arrêtes. Pas si vite, soigne tout mouvement. Fais le plus régulier, sinon tu t'en mets partout. Mine de rien, quand tu n'es pas dans ton coup de feu du midi ou du soir, tu es plus patient. Le fourneau ronfle, tu le redémarres dès le dimanche soir, car tu détestes le retrouver froid le lundi matin. Je cogne la poêle à crêpes sur la fonte, car main ne tape jamais rien sur le fourneau, c'est manquer de respect aux outils.
Tu prends trois œufs et tu les casses dans un bol, puis fais fondre 50 grammes de beurre dans une casserole. Tu rajoutes 2 cuillères à soupe d'huile, le tout dans 300 grammes de farine. Et pour le sucre, 50 grammes suffit. Y'en a qui rajoutent la vanille.
Extrait du roman Les vrilles de la vigne de Colette, publié en 1908. Écoute encore, donne tes mains dans la mienne. Si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur. Jusqu'à la forêt, là-haut, où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car, comme te voilà pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit ? Je ne sais plus. Je parlais de mon pays, pour oublier la mer et le vent. Te voilà pâle avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi, tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin. Il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent.
Extrait du roman « Un monde à portée de main » de Maïlys de Carangal, publié en 2018. Apprendre à imiter le bois, c'est faire histoire avec la forêt. La dame au col roulé noir dit aussi « établir une relation, entrer en rapport ». Et Paula fait longtemps tourner cette phrase dans sa tête pour qu'elle décante. Elle attend. Une vie végétale frémit dans l'atelier, qui se prolonge sur les panneaux, prolifère sur les palettes où les couleurs nuancent les jaunes, dégradent les bruns, héberge un peu de rouge pour les acajous et ce noir absolu que l'on trouve au cœur des ébènes les plus purs. Les arbres se fendent, leur bois révèle des aubiers clairs, des duramens toujours plus sombres enseignent un répertoire de formes, un entrelacement de fils droits, ondulés ou spiralés, un semis de pores et de loupes qui chiffre un monde à portée de main.
Met a woman long ago, her hair the black that black can go. Are you a teacher of the heart? Soft, she answered no.
Un extrait du roman Le ventre de Paris d'Émile Zola, publié en 1873. Sur le carreau, les tas déchargés s'étendaient maintenant jusqu'à la chaussée. Entre chaque tas, les maraîchers ménageaient un étroit sentier pour que le monde pût circuler. tout le large trottoir, couvert d'un bout à l'autre, s'allongeait avec les bosses sombres des légumes. On ne voyait encore, dans la clarté brusque et tournante des lanternes, que l'épanouissement charnu d'un paquet d'artichauts, les verts délicats des salades, le corail rose des carottes, l'ivoire mat des navets. Et ces éclairs de couleurs intenses filaient le long des tas avec les lanternes. Le trottoir s'était peuplé. Une foule s'éveillait, allait entre les marchandises, s'arrêtant, causant, appelant. Une voix forte au loin criait « Eh, la chicorée !»
Un extrait du roman « L'invention d'Hugo Cabré » de Brian Selznick, publié en 2007. Monsieur Tabar et Étienne vont chercher le paquet dans le vestibule. Ils déballent le projecteur et l'installent sur la table. Étienne sort la bobine de sa boîte, met le film en place dans l'appareil, qu'il branche sur le courant, pendant qu'Hugo tire les rideaux. Il dirige le projecteur sur l'un des murs et l'allume. Avec des cliquetis continus, la bobine commence à tourner. La pellicule a défilé et le mur s'illumine. Des images apparaissent montrant Georges Méliès, jeune homme, portant une fausse barbe blanche et une cape noire couverte d'étoiles et de lune. Hugo en reconnaît les motifs. Quand le coffre s'est brisé, en tombant de l'armoire, il l'a prise pour une couverture, alors que c'est un costume du film « Le voyage dans la lune ». Jamais il n'a vu spectacle plus merveilleux. Il imagine son père, enfant, assis dans le noir d'une salle autrefois, à regarder ce même film, les yeux rivés sur le visage de la lune.
Packing all my things for the summer. Lying on my bed, it's a bummer, cause I didn't call when I got your number, but I liked you a lot.
Un extrait du roman Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, publié en 2024. C'est moi l'homme à présent, j'ai eu de la chance. J'échappe désormais à la quasi-totalité des obligations qui pesèrent sur mon père. Je n'ai plus guère de chef. Pas de problème de fric, je suis maître de mon agenda, de l'heure de mon réveil et mon sommeil m'appartient. Mais je demeure comptable de ces sacrifices, ma dette est là. Je suis de ce sang des emmerdés perpétuels, des soumis qui grognent, ceux qui dévorent la chaîne, le chronomètre, qui n'ont que le temps qu'on leur abandonne. Toujours je serai un gosse de prolo fier de son BEPC qui avait peur du chômage et des dettes, qui s'endormait chaque soir devant la météo, cet homme dont la vie fut employée à des fins qui n'étaient pas toutes les siennes, qui a compté les jours avant les vacances, les mois avant la retraite. Je suis de ce monde du temps vendu par force, cédé parce que c'est comme ça.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Extrait du roman Les recettes de la vie de Jackie Durand, publié en 2019. J'aime le crépuscule. Dans un restaurant, le soir n'est jamais immobile. On s'active jusqu'à point d'heure. Il y a toujours un bout de terrine ou de chèvre pour discuter passé minuit. Je hume l'odeur lactique du chalet. Été comme hiver, j'ai les pieds gelés sur le sol de granit. Pendant que tu fais tes achats, je me penche sur la cuve en cuivre où l'on fabrique les fromages. Il y a aussi ce drôle d'outil. Mi-râteau, mi-balai, dont les fils d'acier servent à trancher le lait coagulé pour le transformer en morceaux de la taille d'un grain de maïs qui deviendront des meules, des tomes que je vais flairer dans la cave. Dans ce clair-obscur, je caresse des croûtes, humides, salées, parcheminées.
Nous allons faire une courte pause dans les lectures expressives et laisser place aux morceaux de musique choisis par les élèves de seconde C. Tout pour moi, de Clara Luciani.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil.
facile si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es mon Amérique, t'es mon cinéma, mon roller coaster, mon alléluia. Toute ma dynamite dans mon calme plat. Avant toi je n'existais presque pas. T'es mon Amérique, t'es mon cinéma, mon roller coaster, mon alléluia. Toute ma dynamite dans mon calme plat. Avant toi je n'existais presque pas. T'es une fourmi dans la fourmilière, une perle au collier de l'univers. T'es infini mon petit. C'est une fois par millénaire. C'est qu'une fois par millénaire.
Sur Bac FM pour continuer les lectures expressives de textes sur, je répète, le thème des patrimoines.
Un extrait du roman « Souviens-toi des abeilles » de Zinaide Mécouard, publié en 2024. Et les fleurs. Certaines apportent un goût sucré aux narines et on aurait envie de mordre dedans. D'autres ont plutôt une odeur de musc, c'est doux au début, puis très fort quand ça remonte vers les yeux, et Anir éternue à chaque fois. D'autres encore, lorsque le garçon s'approche, même de très près, n'ont pas d'odeur. Anir ne saurait dire pourquoi, mais la rencontre avec ces fleurs-là le rend toujours un peu triste. On ne peut pas les prévoir, les fleurs sans odeur, ça arrive. Parfois, d'avoir envie de pleurer pour ça. Et puis, il oublie. Parce qu'il voit que sa mère ne l'attend pas, qu'elle avance et, interrogeant tout autour d'elle, c'est cela qu'elle lui fait découvrir le matin, quand le village est encore endormi, sans mots, comme indifférente.
Quand tout me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine, pas même moi, je pense aux fleurs.
Extrait du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haute que la rosa centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau de la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise,
Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure à mesure qu'ils approchaient du sol. Les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir.
Extrait du roman « Les recettes de la vie » de Jackie Durand, publié en 2019. Maman te demandait tous les dimanches de commander un grand plateau de service, mais tu t'entêtais à poser ta poêle à paella sur le lit. « C'est notre déjeuner sur l'herbe !» rigolais-tu en dressant les huîtres, la salade d'orange et la brioche tiède. Nous n'avions pas le droit de nous servir. C'est toi qui préparais nos assiettes. Les huîtres, disposées en étoile pour maman avec du pain complet beurré, et une grosse tranche de brioche nappée de chocolat chaud et de chantilly pour moi. Tous les dimanches, on avait le droit aussi au cinéma. Tu faisais mine d'avoir oublié quelque chose et tu dévalais l'escalier. Maman me faisait un clin d'œil en portant une huître grasse à sa bouche. Je picorais mon petit dôme de chantilly pour qu'il dure plus longtemps.
Un extrait du roman « La maison atlantique » de Philippe Besson, publié en 2014. Certaines des photos les plus anciennes étaient à bord dentelé, en noir et blanc, ou dans des couleurs imprécises, presque verdâtres. D'autres étaient des polaroïdes, d'autres des tirages soignés qu'on avait visiblement fait faire payer. Des années, des existences qui défilent, des gens qui grandissent, mûrissent, vieillissent, ne sont plus le lot ordinaire des familles. Cet espoir têtu d'arrêter le temps. Cette promesse de conserver ce qui a été pour se le rappeler plus tard, ce réflexe, cette façon de dire « le bonheur a existé » puisqu'il est là, sur les photos. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ancrage des images dans une époque ancienne. Je n'avais pourtant que 18 ans, alors la nostalgie n'était pas pour moi. Le sens du temps qui passe m'échappait complètement.
Extrait du roman « L'invention d'Hugo Cabret » de Brian Selznick, publié en 2007. La boutique est imprégnée d'une odeur de vieux papier, de poussière et de cannelle qui lui rappelle l'école, ravivant des souvenirs heureux de son ancienne vie. Ses meilleurs amis, Antoine et Louis, avaient tous deux les cheveux bruns et se faisaient passer pour frères. Hugo n'a pas pensé à eux depuis longtemps. Le plus grand des deux, Antoine, le surnommait Tic Tac, parce qu'il avait toujours des pièces d'horlogerie dans ses poches. Alors, le garçon se demande s'il manque à ses camarades, s'il feigne encore d'être frère. Hugo se souvient aussi que, le soir, son père lui lisait parfois de passionnants récits d'aventures tirés de Jules Verne ou des contes de fées d'Hans Christian Andersen qu'il aimait particulièrement. Il regrette ses lectures.
Le pont Mirabeau, poème extrait du recueil « Alcool » de Guillaume Apollinaire, publié en 1913. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, nom de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ?
La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure.
Un extrait du roman Histoire de fils de Marie-Hélène Lafont, publié en 2020. Gabrielle ne ressemble à personne. Elle et sa mère, elle vit à Paris. Elle vient deux fois par an, une semaine à Noël et trois semaines en août. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle en disant Gabi. On ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer. Et on pense d'elle parce que, dans cette maison, on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin. Il préfère que Gabrielle soit lent, mais il se tait. Il l'a embrassée à la gare, il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs. Qu'il garde dans le nez et la gorge, il le respire encore, le mâche, l'avale et le déglutit. À Figeac, l'été, sa mère ne se parfume pas. Elle se lave beaucoup, longuement. Elle dit que la chaleur tue le parfum. André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions. Jamais.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Extrait du roman Au bonheur des dames d'Émile Zola, publié en 1883. C'était comme une nef de gare, entourée par les rampes des deux étages, coupée d'escaliers suspendus, traversée de ponts volants. Les escaliers de fer, à double révolution, développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers. Les ponts de fer, jetés sur le vide, filaient droit, très haut. Et tout ce fer mettait là sous la lumière blanche des vitrages, une architecture légère, une dentelle compliquée où passait le jour. La réalisation moderne d'un palais du rêve, d'une Babel entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles à l'infini.
Un extrait du roman « Les vrilles de la vigne » de Colette, publié en 1908. Elle est violette, elle-même, éclose par magie dans l'herbe. Cette nuit, les reconnais-tu ? Tu te penches, et comme moi, tu t'étonnes. Ne sont-elles pas ce printemps-ci plus bleues ? Non, non, tu te trompes. L'an dernier, je les ai vues moins obscures, d'un mauve azuré. Ne te souviens-tu pas ? Tu protestes. Tu hoches la tête avec ton rire grave. Le vert de l'herbe neuve décolore l'eau mordorée de ton regard. Plus mauve, non, plus bleu, cesse cette taquinerie. Porte plutôt à tes narines le parfum invariable de ces violettes changeant tes regards. En respirant le fil qui abolit les années, regarde comme moi ressusciter et grandir devant toi les printemps de ton enfance.
L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour.
Un extrait du roman L'été de la sorcière de Kao Masiki, publié en 1994. J'allume la radio. L'animateur est en train d'annoncer les nouvelles du jour. Je sors une tasse du placard, le mug que la petite a laissé ici aussi. Au moment de quitter la maison, elle a longuement regardé son mug, puis a fini par le ranger dans le placard. Je l'ai vu faire. Elle aurait très bien pu le prendre avec elle, mais elle l'a laissé ici, comme si elle allait revenir, même si elle n'en avait probablement pas l'intention. Depuis, chaque fois que je pose les yeux sur cette tasse, je suis envahi par de tendres pensées et une sensation de chaleur m'enveloppe. Comme quand cette petite était avec moi.
Un extrait du roman Betty de Tiffany McDaniel,
publié en 2020. Fossi étant partie, j'étais la dernière des trois sœurs à rester à la maison. J'ai gravé le nom de mes sœurs dans le bois du bout du monde, afin qu'au moins la scène elle-même ne les oublie pas. Et puis j'ai écrit. De mes écrits ressortaient des entrelacs et des ciselures. Il y avait des griffes et des serres. Des choses plus douces également. Je parlais d'eau ruisselant des murs, de fumée dérivant dans le ciel, de ces réalités intangibles ou palpables qui nous liaient tous, en des nœuds, qu'aucun début extraordinaire ne pourrait jamais fixer. Mes poèmes embrassaient tout ce que mes bras ne pouvaient étreindre. Ils hurlaient tout ce que je taisais. Ils étaient aussi un murmure brûlant qui proclamait parfois « L'amour est un châtiment ».
Extrait du roman « Quatre murs » de Ketevan Davidchewi, publié en 2014. Lorsqu'on s'est installé à Saumange, il s'est mis à la pêche et m'emmenait avec lui. Des heures passées à préparer les hameçons, à ne rien dire sur la rive. On coupait à travers champs. Les herbes hautes m'encerclaient. Je rejoignis en courant sa silhouette imposante. Je comblais ses silences.
Hey, how you doing? I just want to be there when... There's the river we could go. Have some wine, I'll be glad if you come fishing with your dad. Fishing with my daddy.
Un extrait du roman L'invention du Gokabré de Brian Sesnick, publié en 2007. Et puis, les frères Lumière ont inventé le cinéma. Je suis aussitôt tombé amoureux de leur invention et je leur ai demandé de me vendre une caméra. Ils ont refusé et j'ai dû m'en construire une en utilisant les pièces qui me restaient de l'automate. Nous tenions à faire partie de l'aventure. Ma jolie épouse est devenue ma muse, ma vedette. J'ai tourné des centaines de films. Nous pensions que ce serait sans fin. Cela n'avait pas de raison de finir, hein ? Seulement, la guerre est arrivée. Après, il y avait trop de concurrence. Nous avons tout perdu. Annoncer à mes employés que je ne pouvais plus subvenir à leurs besoins m'était insupportable. Je croyais avoir touché le fond quand deux amis chers, un jeune caméraman et sa femme, ont été tués dans un terrible accident de voiture. Ils avaient une fille, un bébé. Par chance, elle a survécu.
Un extrait du roman « Les recettes de la vie » de Jackie Durand, publié en 2019. Je t'entends quand tu me dis « Saucier, c'est le plus beau métier de la cuisine ». Il y avait de la magie quand je te regardais, gamin, faire ta bisque d'écrevisse. Les bestioles devenaient rouges vifs dans la cocotte alors que je m'échinais à tailler en mirepoix les légumes que tu allais ajouter. Tu écrasais, rageusement, le tout avec un rouleau à pâtisserie qui faisait office de pilon. Des tomates, du vin blanc, des clous de girofle, des baies, de genévrier et des grains de poivre enluminaient le mélange que tu oubliais pendant 3 heures, à tout petit feu, sur un coin de la cuisinière. La bisque devenait un jus épais que tu filtrais au chinois. Il fallait évidemment que tu y ajoutes de la crème. Tu me faisais goûter cette sorcellerie. Moi aussi, aujourd'hui, je suis fier de mon civet, quand je vois le contentement de Maria et Gabi. Je sais que si je téléphone pour te le raconter, tu me parleras aussitôt de mes révisions. Chez nous, on ne réchauffe pas les sujets qui fâchent, on les enterre. Thank you.
Extrait du poème « À l'arc de triomphe », tiré du recueil « Les voix intérieures » de Victor Hugo, publié le 2 février 1837. La mémoire des morts demeure, dans les monuments ruinés, là, douce et clémente, à toute heure. Elle parle au front incliné, elle est là, dans l'âme affaissée, filtrant de pensée en pensée, comme une nymphe en front dormant, qui, seule, sous l'obscure voûte, d'où son eau suinte goutte à goutte, penche son vase tristement.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Extract from novel Moon Palace by Paul Auster, published in 1989. It was not hard to love Uncle Victor, however. The food was worse than it had been with my mother, and the apartments we lived in were shabbier and more cramped. But in the long run, those were minor points. Victor did not pretend to be something he was not. He knew the father food was beyond him, and therefore he treated me less a child than as a friend, diminutive and much adored crony. It was an arrangement that suited us both. Within a month of my arrival, we had developed a game of inventing countries together, imaginary worlds that overturned the laws of nature. Some of the better ones took weeks to perfect, and the maps I drew of the hung in a place of honor above the kitchen table.
Extrait du roman Moon Palace de Paul Auster, publié en 1989. Il n'était pas difficile, pourtant, d'aimer l'oncle Victor. Nous mangeons moins bien que du temps de ma mère, et les appartements où nous habitions étaient plus miteux et plus encombrés. Mais il ne s'agit là, en fin de compte, que de détails. Victor ne prétendait pas être ce qu'il n'était pas. Il savait la paternité au-dessus de ses forces, et me traitait en conséquent moins comme un enfant que comme un ami, un camarade en modèle réduit et fort adoré. Cet arrangement nous convenait à tous deux. Dans le mois de mon installation, il avait élaboré un jeu consistant à inventer ensemble des pays, des mondes imaginaires qui renversaient les lois de la nature. Il fallait des semaines pour perfectionner certains des meilleurs, et les cartes que j'en traçais étaient accrochées en place d'honneur au-dessus de la table de la cuisine.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Nous vous souhaitons donc une très bonne soirée sur Bac FM.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris. Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement...
tellement.
Évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, Charles.
Après, tu veux dire ?
S'il te plaît.
Au revoir,
hein. Merci pour le cadeau.
Va manger, vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot mercredi.
Rends-le vite, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour
toi. C'est cool, passe, mon ref.
D'abord, on va à la séance de 19h30 et après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir.